Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le 11 mai dernier, c'était la première édition des Flammes, une cérémonie qui s'est donnée pour but de célébrer toutes les cultures musicales urbaines et populaires. Alors, au programme, on a retrouvé SCH, Ronisia, Damso, Gazo, Hamza, des figures du rap, du hip-hop et du R&B. Et c'est ce dernier genre musical qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Le R&B, c'est un genre un peu galvaudé, souvent associé à de la musique de lover, à des textes un peu gnangnans, pas très recherchés. Pourtant, le R&B hérite d'une longue histoire musicale très riche. Et aujourd'hui, on observe un renouveau. Là, par exemple, plusieurs artistes représentaient le genre aux flammes. Alors c'est l'occasion de faire un petit récap de ce que c'est le R&B et de son histoire. Et ça tombe bien parce qu'un livre vient de sortir à ce sujet. Rencontre avec son autrice, on va parler R&B de Whitney Houston à Aya Nakamura. Bienvenue dans Minute Papillon. Bonjour Rhoda Chococam.
Bonjour.
Vous êtes une directrice artistique, photographe, critique et autrice. Et c'est sous cette casquette qu'on vous rencontre aujourd'hui pour un livre qui vient de paraître aux éditions Audimat. Il s'appelle « Sensible, une histoire du R&B français ». Dans ce livre, vous faites le choix de réhabiliter le R&B en France, en tout cas sa version française, d'en tirer les zones d'ombre, parce que vous le dites, il existe une amnésie sur ce genre musical. Est-ce que c'est à partir de ce constat-là que vous vous êtes dit « il faut qu'on écrive quelque chose sur le R&B » et que vous avez commencé à faire germer ce projet de livre ?
Le projet de livre, on va dire qu'il germe aussi parce que j'ai eu la proposition. J'avais fait quelque chose avec les éditions Audimat en 2021, où j'ai raconté l'histoire du R&B sur 30 ans. Le R&B, c'est une musique qui est une musique sœur du hip-hop, qui émerge quelques années après le hip-hop en France. Pourtant, il n'y a pas de livre, ce qui est assez incroyable. On parle des années 90, aujourd'hui on est en 2020, donc on parle de 40 ans quand même, que les artistes sont là, ils sont présents, ils peuvent témoigner, ils peuvent raconter cette histoire, mais il y a une sorte d'absence, un manque assez essentiel. Et donc c'était aussi, oui, forcément pour combler ce manque, mais je pense qu'aussi c'est aussi un projet passionné aussi. Je suis une passionnée de R&B, j'écoute du R&B depuis que je suis toute petite. Et pour moi, ça faisait, c'était un peu comme une sorte de destin d'écrire ce livre au final. Ouais.
Et c'était quoi, vous, votre rencontre avec le R&B, la première musique ou ce qui vous a marqué ?
C'est un titre de Whitney Houston qui s'appelle « I Wanna Dance With Somebody », qui au final ne serait pas vraiment considéré comme du R&B parce que c'est très pop et qui paraît aussi pendant les années 80, donc très funk aussi dans un sens, mais qui a en tout cas cette production vocale qui est très R&B et qui m'a touchée quand j'étais toute petite. Et je me suis dit, ah non, mais ça, c'est ce que j'ai envie d'entendre, ça, c'est ce que j'ai envie d'écouter. Ouais.
Et on va revenir sur la définition du R&B, ce qui en est, ce qui en est pas, parce que c'est quand même un enjeu important du livre. Oui. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous aviez travaillé pour ce livre.
C'était important de pouvoir faire des entretiens, aller à la rencontre des artistes, aller chercher le peu de documents qui pouvaient exister, et aussi forcément aller chercher aussi dans les médias, parce que les artistes sont passés dans les médias français. C'était aussi comprendre comment ils ont été accueillis par les médias, comment la musique, comment on parlait de cette musique dans les médias français dans les années 90 et même dans les années 2000, puis écouter la musique. Parfois, quand on parle de musique, on parle pas généralement de la musique elle-même, et je pense que c'était important en tout cas de prendre ce moment pour écouter la musique elle-même. Parce que c'est important de dire que le R&B français n'est pas juste une copie du R&B américain, mais qu'il a ses propres spécificités. Et ces spécificités-là, on les entend quand on commence à écouter la musique.
Et vous en parlez justement dans le livre, du moment où le R&B arrive en France, et du fait que les médias spécialisés, la presse musicale, a du mal aussi à définir ce que c'est, le définit beaucoup par rapport au rap,
ouais,
ou le définit par rapport au hip-hop. Pourquoi on a autant de mal à définir ce que c'est le R&B, et comment vous le définiriez ?
C'est assez compliqué, et surtout en France, le problème, ça a été justement cette arrivée du R&B qui est très liée au hip-hop dès le départ. Et forcément, les artistes qui font du R&B sont aussi des artistes qui ont commencé parfois dans le milieu hip-hop. hip-hop et qui peuvent s'habiller comme des rappeurs, qui peuvent avoir des allures de rappeurs qui viennent des mêmes endroits. Et donc il y a une confusion, on se dit mais comment ça se fait que ces personnes qui ressemblent à des rappeurs ne fassent pas de rap? Pourquoi ils chantent en fait au final? Donc il y avait déjà cette confusion qui était assez claire, et je pense qu'il y a aussi une confusion qui vient du fait que la culture R&B n'est pas une culture française à la base, en réalité. Aux États-Unis, par exemple, on part le R&B, c'est les années 40. On commence dans les années 40. Rhythm and Blues, c'est les années 40. Il y a 80 années d'histoire, en réalité. Et en France, cette histoire, elle commence au début des années 90. Comment parler d'une musique qu'on ne comprend pas, et surtout dans un pays où c'est très important, par exemple, quand on parle de musique ou de variété française, où c'est important les textes, alors que le R&B, par exemple, c'est important la production vocale. Comment est-ce qu'on chante ce qu'on raconte? Pour répondre à votre question sur le R&B, qu'est-ce que c'est le R&B? Je pense que c'est une question qui est très vaste. À la base, c'était une musique d'évasion, parce qu'elle arrive aux États-Unis, en tout cas elle devient populaire aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, c'est une musique aussi qui est une somme du swing, du blues et du gospel. Mais à partir des années 60, par exemple, il y a la soul, le R&B devient la soul. Ensuite, dans les années 70, il devient le disco. Il devient ensuite le funk, et ensuite il devient le rap, parce qu'à chaque fois, c'est des influences différentes qui s'insèrent dans la musique. Mais c'est vrai qu'en France, quand on pense R&B ou quand on pense rhythm and blues spécifiquement, on pense souvent aux années 60, on pense souvent à la Motown, on pense souvent à Marvin Gaye, on pense souvent à Aretha Franklin. Et on oublie que juste après, il y a eu 30 ans encore d'histoire.
Oui, ouais, tout à l'heure, vous parliez du fait que les médias ne comprenaient pas que le R&B n'était pas une musique forcément de texte,
oui,
mais une musique de rythme, etc. Il y a toute une partie dans le livre où vous parlez des vibes.
Oui, des vibes.
C'est très difficile à comprendre en France au début, et qu'on le méprise un peu, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les vibes, en anglais, ça c'est la version française, mais en anglais, ça s'appelle les runs. Et aussi, il y a un terme que j'aime beaucoup, qui a été plutôt théorisé par un chercheur qui s'appelle Marc-Anthony Neal, et qui parle de expression polytonale. Et il dit en fait que cette expression, cette façon de chanter, c'est pour exprimer des choses qui ne sont pas exprimables quand on chante des paroles. Donc c'est une façon à chaque fois de très spécifique en tout cas au vécu des Noirs américains, et qui permet donc d'avoir cette musique soul. Mais c'est vrai qu'en France, on peut se dire non mais c'est gnangnang, mais c'est
forcé.
Bêtises, c'est forcé, pourquoi?
J'aimerais qu'on revienne un peu historiquement. Vous expliquez comment le R&B est arrivé en France, et vous l'expliquez notamment par l'émergence d'un label.
Oui. Alors Sensitive, c'est un label qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Benny Malapa. C'est aussi le producteur de la première compilation de rap français, Rap Attitude. Ce label, il le crée parce qu'il voit, en fait, au début des années 90, qu'il y a une effervescence, il y a quelque chose qui se passe. Il va dans des soirées, il voit les artistes se produire, il voit en même temps le New Jack Swing qui font des concerts, Bobby Brown, il voit Joe Dessy, il voit plein d'artistes comme ça, il se dit mais...
Le New Jack Swing, c'est... Est-ce qu'on peut le définir?
Le New Jack Swing, c'est... On va dire, c'est une forme de R&B qui est née à la fin des années 80, qui a la sensation du hip-hop, tout en ayant des artistes qui chantent. Et c'est ce type de R&B qui séduit les Français. Et donc le Sensitive, le label, se crée à ce moment-là, parce que Benny Malapa voit qu'il y a une effervescence, et il voit qu'il y a une scène qui existe. Et ce qu'il veut faire, c'est les professionnaliser, parce que la plupart de ces artistes n'ont pas forcément fait de titres. Voilà, ils font des choses parce que c'est ce qu'ils sentent, on va dire c'est presque naturel pour eux.
Et alors après la naissance de ce label, il va y avoir une longue histoire de professionnalisation.
Oui.
Réussi, moins réussi, vous donnez plein d'exemples dans le livre d'artistes. Moi, je voulais m'arrêter sur une phrase que vous dites dans le livre. Vous affirmez que les clips de R&B ont constitué les prémices d'une réponse des femmes invisibles. Qui sont ces femmes invisibles que le R&B a permis de visibiliser?
Dans ce chapitre, ce que j'essaye d'expliquer, ou plutôt de trouver dans les clips, c'est montrer que dès les années 90, justement au moment où on considérait que le paysage audiovisuel français ne permettait pas en fait à des femmes noires de se voir à la télévision, il y avait dans les clips des possibilités de se voir qui étaient complètement différentes de ce que la fiction ou de ce que les médias, les journaux télévisés pouvaient montrer. Donc c'était à la fois passer par des clips et voir qu'on pouvait avoir des narrations qui montraient des femmes sortir, par exemple, de leur milieu social, des femmes qui étaient en conversation avec leur communauté, plein de choses qui existait déjà dans les années 90 dans les clips et qui aujourd'hui est peut-être beaucoup plus visible parce que des femmes noires, réalisatrices, etc. sont beaucoup plus visibles aussi et font des films aujourd'hui. Mais ce que j'aime bien en fait dans l'idée des clips, c'est qu'on commence à voir, on peut voir les clips aussi comme des petites œuvres cinématographiques qui peuvent apporter des messages de ce type aussi. Dans le livre, ce que je voulais mettre en avant, c'était la musique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le R&B dans les années 2000? Et je pense que pour comprendre pourquoi il y a une sorte de dépérissement du genre, il faut pouvoir écouter la musique et vraiment se demander ce que le R&B, comment il évolue, les maisons de disques, les labels, qu'est-ce qu'ils mettent en avant à un certain moment. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'on commence à avoir ce thème qui peut être récurrent dans certains titres de R&B, qui est le thème de la petite sœur, la petite fille, où à chaque fois on regarde les jeunes filles, les adolescentes, et on leur dit ne fais pas ça, ne sors pas, ne parle pas aux garçons, etc., etc. Et donc avec un ton qui est supposé être, on va dire, protecteur, mais qui au final peut avoir l'effet contraire. Et donc à un moment donné, donc il y a dans le R&B ce thème qui devient récurrent à la fois dans des titres de chanteuses qui peuvent être d'origine maghrébine par exemple, ou même de chanteuses aussi qui au final comprennent que c'est ce qui marche et qui font aussi la même chose, donc des chanteuses aussi qui peuvent être des chanteuses blanches aussi. Je pense que dans les titres de Vita, il y a ce type aussi de thèmes qui peuvent revenir.
Alors là, vous me parliez du dépérissement du genre. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'aujourd'hui, le R&B est plus aussi perdu de sa vitalité par rapport à d'autres genres musicaux qui sont restés, comme le rap? De quoi a pâti en fait le R&B en France, selon vous?
Pour moi, ce qui est assez évident, surtout quand on regarde les années 2000, c'est qu'il y a un type de R&B qui est arrivé peut-être un peu trop tôt. Je parle du R&B variété spécifiquement, qui est un R&B qui vient et qui est vidé, on va dire, de certains éléments essentiels du R&B. Qu'on a des artistes qui font du R&B, mais qui n'est pas très bien produit. Quand on pense à des groupes comme Tragédie, et on compare ce que Tragédie fait en 2003 et on compare ce qu'un artiste comme Vybe à la fin des années 90 fait, on voit bien qu'il y a une grosse différence de qualité et une grosse différence aussi de proposition artistique. Sauf que ce R&B-là, qui est du R&B variété, qui est très dilué, c'est un R&B qui plaît au public français. Donc forcément, ce que les maisons de disques comprennent, c'est ce qu'il faut donner. Mais sauf que pour la vitalité du genre, pour les propositions artistiques, pour la maturité, ça n'aide pas forcément les artistes. Et certains artistes aussi sont évincés dans les années 2000. Mais je ne vais pas être complètement pessimiste et dire qu'aujourd'hui, il y a toujours une scène R&B indépendante qui renaît.
Par exemple, il y a qui? Parce que justement, je me suis posé la question, vous citez des artistes aujourd'hui très, très populaires comme Aya Nakamura ou Dadju, qui peuvent se revendiquer d'une influence, en tout cas R&B.
Oui.
Aujourd'hui, qui pourrait se définir comme, revendiquer un héritage R&B?
C'est vrai que aussi dans la question de la revendication, il y a peut-être beaucoup moins d'artistes qui se revendiquent R&B aujourd'hui parce que le terme est très connoté, que c'est pas une bonne musique, qu'il y a pas de texte, que c'est pas, elle est pas digne d'intérêt, etc., etc. Mais il y a des artistes très populaires comme Taiki par exemple, qui se revendiquent du R&B. Aya Nakamura parfois se revendique du R&B. Dadju. Et maintenant on a aussi des artistes qui sont très clairement R&B, comme Enchantée Julia, par exemple. Il y a beaucoup d'artistes.
La scène n'est pas morte, en fait.
Non, elle n'est pas morte. Et pour moi, elle est en train de renaître très lentement de ses cendres. Oui.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.